Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Victoire, à l'aube de ses 30 ans, a tout pour être heureuse. Pourtant, un mal-être pesant la prive de ce bonheur. Elle tente de trouver du réconfort par le biais d'une thérapie, mais elle n'est pas prête à s'ouvrir au changement. Un jour, sa vie bascule. Elle se retrouve avec une jambe paralysée, à nu, avec toute une identité à reconstruire. Cette épreuve la pousse à prendre un virage à 180 degrés et partir à l'aventure, en Inde, en solitaire. Cette histoire romancée s'inspire de la vie et des expériences de Lisaya, auteur du livre « La voix qui ne ment jamais ». Lisaya Camus, voilà, donc j'ai bien compris que tu avais passé un petit peu de temps sur ce pays continent qui regorge de surprises avec une diversité complètement incroyable. Donc l'idée dans cette émission, qui va durer à peu près une demi-heure, c'est vraiment de prendre le temps de savoir qui tu es, de te rencontrer. Donc je vais revenir peut-être toi, Lisaya, avant de partir, pour pas tout de suite rentrer dans le dur du sujet. Qu'est-ce qui t'a attiré vers l'Inde? Est-ce que c'était ton premier voyage? Est-ce que tu savais que tu... Voilà, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé, la genèse de ton projet et de ton histoire.
Alors, l'Inde, c'était un deuxième voyage. Donc, le premier voyage, j'avais fait un voyage un peu touristique avec mon compagnon, en mode Kerala, vacances. Et donc ça, c'était une première expérience qui était très chouette. Et là, ce voyage, enfin l'histoire de... Enfin, pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est... cet autre voyage, c'est un voyage solitaire. Donc c'est un voyage toute seule, cette fois-ci.
On en parlera de ça aussi, le voyage. Voyager en Inde en tant que femme seule, parce que beaucoup de voyageuses se questionnent sur cette envie de partir, mais aussi cette peur qui est celle de partir en Inde seule, parce que ça peut être un pays quand même relativement éprouvant. Mais avant de parler de l'Inde, je veux revenir un peu sur toi et ton itinéraire personnel. Est-ce que le voyage, qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce qu'il y a eu d'autres voyages que l'Inde, ou c'est vraiment l'Inde qui t'a appelé? Reviens un peu dans, peut-être dans la première fois que tu as quitté la France.
Ce qui m'a appelé en Inde, ça a été un traumatisme. C'est parti de là. Je me suis retrouvée paralysée suite à une hernie discale. Et on m'avait un petit peu condamnée à une jambe qui resterait paralysée. Et j'étais en train de me morfondre dans mon lit. Et je tombe sur un reportage sur un massage ayurvédique. Et là, je me dis je vais peut-être pouvoir me soigner avec le massage ayurvédique. Et moi, je suis déjà dans mon parcours, je suis kinésithérapeute à l'époque. Et je crois beaucoup aussi à la récupération du corps. Donc j'ai envie d'y croire, envie de me battre, de me dire non, je vais me relever en fait de cette épreuve. Et je suis vraiment attirée par ce pays dans mon lit, déjà après l'opération, quoi, vraiment encore avec des séquelles. Et donc c'est 6 mois plus tard où là je commence à remarcher, à récupérer mes forces et commencer à guérir, que là je pars. Je pars et avec cette idée donc d'un appel vraiment de guérir mon corps.
Donc à une sorte de voyage thérapeutique. Donc là c'est ton premier voyage en Inde ?
Là c'est mon deuxième. Donc, voilà.
Donc le premier, tu n'étais pas encore paralysée ou tu n'avais pas encore été diagnostiquée hernie ?
Hernie discale, ouais. Non, le premier voyage, ça a été un voyage plutôt en mode touristique avec mon compagnon. Kerala, c'est un état qui est très abordable pour les touristes et qui est encore très soft par rapport à l'Inde plus profonde. Et du coup, c'était... c'était plus dans une optique de découvrir des paysages, d'aller à la rencontre de la culture. Mais je suis pas vraiment, vu que j'étais en couple aussi à l'époque, j'ai pas vraiment rencontré. J'ai pas l'impression d'être allée vraiment dans la culture à ce moment-là. Vraiment plutôt de profiter un peu du pays en mode consommation. Et voilà, c'était plus dans cette démarche-là à l'époque. J'étais, on va dire, dans une vie un peu classique, voyager pour me détendre, pour me changer de mon quotidien un peu difficile. J'avais un quotidien difficile avec un travail qui me prenait beaucoup de temps, d'énergie. J'étais quand même en souffrance à l'époque.
Tu t'appelais Lisaya, mais je vois qu'écrit Émilie sur ton badge.
Alors oui, parce qu'Émilie, c'est mon nom civil. Et Isaiah, c'est le prénom que je me suis donné suite à cette transformation, en fait. Donc c'est comme un deuxième prénom pour moi. C'est un prénom que je me suis créé et que j'aime employer.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Tu as écrit un bouquin qui retrace un petit peu tes périples, tes péripéties indiennes. Je crois que tu es parti plusieurs mois.
Oui, 6 mois. Ouais.
Alors comment est-ce qu'on se prépare à partir seul 6 mois en Inde et quel était le fil rouge de ton voyage? Donc si je comprends bien, c'était cette envie de t'auto-guérir hein, à travers l'Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne, de cette hernie discale. Hein. Donc voilà, comment est-ce qu'on prépare ça? Comment est-ce que tu t'y es prise? Parle-moi un peu de cette phase pré-voyage.
Pour moi, c'est une évidence de partir, donc je suis pas trop stressée par l'organisation. Je sais que je vais partir en Inde, mais donc je prends mon billet d'avion déjà et je prends juste un aller. Je sais pas quand je vais revenir, donc je prends pas de billet de retour. Donc ça, c'est clair que pour moi, c'est un voyage qui a une entrée, mais qui a pas de sortie encore.
Ce qui est compliqué en Inde, parce qu'ils demandent souvent un billet retour.
Donc c'est ça, j'ai dû prendre quand même un billet à l'arrivée. On m'a demandé de prendre un billet de retour. Enfin, en tout cas, un billet de quitter d'Inde, donc j'ai pris un billet pour le Népal. Voilà, c'était le billet le moins cher et ça s'est présenté comme ça. Et ce qui est très drôle pour la petite histoire, c'est que je suis quand même allée au Népal après aussi, mais pas avec ce billet d'avion.
Oui, parce que ça, faut le savoir, il y a des pays aujourd'hui, en tant que voyageur, quand on part avec un aller simple, ça dérange, parce que souvent les gens partent sur une durée qui est celle des vacances, 15 jours ou 3 semaines, donc tu prends un aller-retour. Et quand tu te retrouves à l'aéroport, au moment d'embarquer, et que t'as qu'un billet aller, souvent ça bug.
C'est ça. Et en fait, ils ont peur que tu restes. Et bon, en tout cas, moi, ça a été vraiment la condition d'embarquer. Et si vous achetez pas un billet, vous n'embarquez pas.
Voilà, donc petit truc et astuce pour celui qui veut faire ça, partir en Inde sans retour, effectivement il faut un billet pour sortir et j'ai fait pareil, j'ai aussi pris un billet Delhi Katmandou parce qu'ils sont à 40 balles ou 50 balles et au moins on te laisse partir et une fois sur place tu t'arranges et tu t'organises.
Ouais, exactement, ouais. Non, c'était assez surprenant puis après je l'ai vraiment vécu en oh mais pourquoi pas, enfin allez allons au Népal, pourquoi pas.
Mais avant d'aller au Népal, on va partir en Inde, donc tu as passé 6 mois là-bas, tu as écrit un bouquin. Tu savais déjà que tu allais écrire un livre sur ton aventure?
Pas du tout. Non, je vais en Inde pour guérir mon corps, donc je vais faire cette expérience. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais moi j'avais toujours aimé écrire, donc par contre c'est vrai que je savais déjà que j'allais vivre des choses transformatrices. J'avais un carnet où je notais tout ce qui m'arrivait, mais d'évolution, de prise de conscience. Donc j'avais vraiment ce carnet. C'est pas un carnet de voyage, comme je faisais d'habitude. J'ai voyagé beaucoup en Asie, en Thaïlande, au Laos. Enfin voilà, je notais comme une bonne élève tous les sites que j'avais visités. Je collais des tickets, des musées, des visites. Et là j'ai dit non, en fait ça va pas du tout être un voyage comme ça. J'ai pris conscience très vite que ce voyage n'allait pas être comme ça. Comme les autres. Mais je ne savais pas ça, par contre, quand j'arrive en Inde, je ne sais pas tout ça. Je ne sais pas qui va se passer, tout ce qui va se passer, en fait.
Donc le fil rouge, c'est l'Ayurveda. Donc peut-être que tu arrives au Kerala, parce que c'est une région que tu connaissais déjà, et quand on parle de l'Ayurveda, le Kerala ressort souvent.
Et donc, non. Oui, mais non. Moi, j'arrive en Inde par la porte d'entrée du Nord, donc par Delhi, et je suis tout de suite attirée pour aller à Dharamsala ou Rishikesh. C'est mes deux destinations de prédilection. Et je me laisse complètement porter. J'arrive à la gare centrale de Delhi et je regarde les trains qui partent en premier et c'est Dharamsala. Donc je monte dans le train pour Dharamsala et j'arrive à Dharamsala. C'est comme ça que, en fait, tout mon fil rouge de ce voyage, c'est rien de prévu, se laisser guider au fil des rencontres, des intuitions, des choses qui se présentent tout de suite. Et voilà, donc ça a été une expérience incroyable.
Alors Dharamsala, c'est dans la partie nord de l'Inde, c'est dans l'Himalaya, c'est connu parce que le Dalai Lama ou le gouvernement du Dalai Lama en exil est posé à Makleogange, juste à côté de Dharamsala. Donc tu te retrouves là-bas, quand on arrive, on est quand même interpellé par toutes les communautés de Tibétains.
Tout à fait, oui. C'est assez... Je ne m'attendais pas à ça en fait, je découvre vraiment parce que je ne connaissais pas bien l'histoire. Et c'est vrai que... On est tout de suite imprégné par l'ambiance qui règne, les moines qui sourient, Enfin, il y a toute une communauté bienveillante et on se sent vraiment accueilli en fait. Et en même temps, il y a aussi ce côté encore indien avec les klaxons, la ville très bruyante. Et moi, je suis là pour chercher du calme aussi. Donc je me cherche tout de suite à aller dans les hauteurs. Moi, je vais chercher des petits villages au-dessus de MacLeod, d'Aramcote, tous ces petits villages où je peux vraiment prendre du temps pour me reposer aussi.
Rishikesh est plutôt identifié comme la capitale du yoga. Là, tu pars, donc tu montes dans un train, tu arrives à Dharamsala. Tu cherches à t'isoler, toujours cette notion d'Ayurveda, mais est-ce qu'on retrouve l'Ayurveda là-haut dans les montagnes himalayennes ?
Non, alors là j'étais plus... il y a plutôt une médecine tibétaine que je pense me dire, tiens oui, je vais aussi aller voir de ce coin-là. Mais en fait, moi ce que je cherche, en fait, c'est pas du tout ça qui arrive. Je rencontre quelqu'un qui va m'initier à la méditation bouddhiste. Alors du coup, on n'est pas du tout sur la guérison du corps, là. Et je vais, par ce biais de cette personne, m'initier à des pratiques. Et je vais aller faire une retraite en silence dans un temple bouddhiste. Et là, je vais comprendre en fait que tous mes problèmes de mon corps viennent de mon esprit. Enfin, vraiment que la genèse, elle est là-haut en fait. Et qu'après, elle descend dans mon corps. Et que si j'arrive à soulager ce qu'il y a dans ma tête, je peux soulager mon corps. Enfin, vraiment, les deux sont reliés. Je vois vraiment ce lien corps-esprit, même si je sais déjà au fond de moi-même que ça existe, que on n'est pas dissocié en fait. On est un tout. Mais là, je l'expérimente en fait, vraiment.
Même des problèmes de dos, comme des hernies discales, peuvent être liés au mental.
Mais complètement. Et plus encore, oui. Pour moi, je suis profondément convaincue que toutes nos pathologies elles viennent déjà de notre mental. Ouais.
Développe.
après, je pense que aussi le corps aussi donne des messages. Donc il y a vraiment aussi ces deux côtés. Que par exemple, les problèmes de dos, c'est beaucoup relié au passé parce que c'est à l'arrière du corps. Donc voilà, il y a vraiment pour moi, chez moi, c'est évident que j'ai pas fait la paix avec mon passé. Donc ça met ça en évidence que j'ai quelque chose à travailler, à digérer, à processer sur mon passé. Donc si j'arrive à faire la paix avec tout ce que j'ai pu vivre comme traumatisme ou que ce que moi j'ai vécu en tant que traumatisme, bah ça va m'aider vraiment et je vois au fur et à mesure que plus j'arrive à vider ma tête, plus mon corps il s'assouplit et mes douleurs disparaissent. C'est impressionnant.
Donc à travers le bouddhisme, tu comprends ou tu prends conscience que les maux physiques sont liés à son état d'esprit et tu commences déjà ton travail de guérison alors à ce moment-là ?
Et c'est ça, ouais, tout à fait. J'ai moi qui pensais guérir mon corps, j'arrive vraiment en Inde et je me dis bon, et ben non en fait je vais commencer par l'esprit, donc ça se présente comme ça à moi.
Mais alors comment ça marche, comment ça se passe, comment est-ce qu'on guérit une hernie discale en faisant une retraite de méditation dans un temple bouddhiste?
Alors faut savoir que c'est un processus complet, que ça c'est, je pense que c'est la première clé. Moi j'ai vraiment identifié ma guérison en trois parties, la clé du mental, la clé du corps et la clé de l'âme. Donc ça, c'est ma première clé, c'est vraiment le démarrage pour moi de comprendre le mécanisme dans ma tête. C'est aussi un état d'esprit, la façon de voir le monde, comment je me suis construit, qui fait que j'ai eu tous ces... Parce que les problèmes de dos ne remontent pas à mon hernie discale. J'ai l'impression d'être née avec ça, moi, de toujours avoir mal au dos. Et en fait, je prends conscience de tout ce que je me suis imposé, tout ce que j'ai porté qui ne m'appartenait pas. Bon voilà, c'est aussi ce process-là.
Oui, il y a cette expression de « j'en ai plein le dos » qui est souvent liée à beaucoup de choses qu'on porte dans son quotidien.
Ouais. Et puis tout ce qu'on porte qui ne nous appartient pas, qu'on porte des autres. Voilà. Et c'est ça. Moi, j'en avais plein le dos en termes de présent aussi, dans mon travail, dans mes responsabilités qui me pesaient, avec la tenue du cabinet, des prêts à rembourser. J'avais plusieurs prêts. Enfin, c'était très lourd.
Qu'est-ce que le bouddhisme t'a enseigné, t'a appris? Qu'est-ce que tu pourrais partager avec nous de ton temps passé à Dharamsala ou dans cette partie où le bouddhisme est très présent, le bouddhisme tibétain?
Beaucoup. Le bouddhisme, j'ai l'impression d'avoir tellement appris déjà toute une philosophie. Je voyais ça comme une religion moi, à la base. Et en fait, non, c'est-à-dire qu'on peut vraiment appliquer les principes dans son quotidien. C'est vraiment tout ce qui est autour de la compassion. Moi, j'ai été très surprise. En fait, les bouddhistes, quand ils ne méditent pas pour eux, ils méditent pour les autres. Et c'est vraiment une démarche. Il y a quelque chose derrière. Il y a un objectif de faire pour l'autre. Et nous, on est beaucoup dans nos sociétés tournées vers nous. C'est vrai, quand j'ai commencé la méditation, c'était pour moi, pour me soulager moi-même, en fait. Et se dire, non, en fait, ils posent tout de suite leur intention. Je fais ça pour moi, bien sûr, mais aussi pour les autres. Et ça, ça a été un peu un bel enseignement. Le silence, quand on ne parle plus aussi, le fait que le vacarme de l'esprit, tu vois, aussi le côté écouter ce que son mental a à nous dire, ça a été beaucoup... nouveau aussi, ça m'a énormément enseigné.
C'est une sacrée expérience que de se taire, d'apprendre à se taire et laisser de la place au silence et au vide. On n'a pas l'habitude, souvent dans nos vies, on a tendance à les remplir à travers... Bon, on vit dans une société de la distraction où tout est fait pour nous occuper l'esprit à travers les activités, que ce soit professionnelles ou les activités extra-professionnelles.
Oui, c'est ça en fait, c'est vraiment l'apprentissage du silence, mais dans le bon sens. Prendre la bienveillance du silence et la vertu du silence aussi. Que, ouais, on est souvent, moi, je vais toujours penser que parler, ça permettait de montrer aussi qu'on savait des choses ou qu'on était plus éduqué et du coup, des fois, parler pour rien dire. Et là, ça m'a appris vraiment la quintessence de la parole. En fait, vraiment, ça a été un bel enseignement.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc Isaïa, tu as écrit un livre qui est posé là à côté de nous sur la table. Donc j'aimerais quand même savoir ce qu'on y retrouve dans ce bouquin.
Alors on retrouve le début, le livre sur l'arrivée en Inde. Et ensuite, tout mon processus d'expérience lors de ce voyage, donc jusqu'à la fin du voyage et le retour en France. Donc voilà, il y a vraiment ces trois parties. La première partie où j'arrive à Dharamsala, où là, je fais vraiment ce processus sur l'esprit. Ensuite, mon parcours à Rishikesh, où là, je vais trouver un enseignement de yoga. Je vais vraiment être dans le corps, dans l'incarner mon corps, habiter mon corps, écouter les messages de mon corps. Le comprendre, et ensuite vraiment tous ces enseignements spirituels que j'ai encore reçus à Rishikesh qui vont ouvrir vraiment ma conscience et vraiment me reconnecter à mon âme. Et ensuite, voilà, il y a le retour en France qui est assez douloureux. Je raconte aussi ce retour, voilà, comment j'appréhende le retour et toutes les interrogations qu'il y a, toute cette vie qui s'est transformée en 6 mois et comment on revient d'une telle expérience, comment on reprend une vie après une telle expérience en fait. Dans le quotidien, quoi.
On va en parler de ce retour, on va parler aussi de ces transformations, mais j'avais aussi envie de savoir cette notion de voyager en Inde seule en étant une femme. Comment ça s'est passé pour toi? Donc si j'ai bien compris, t'as pas fait le tour de l'Inde non plus, hein, tu es resté dans la partie nord entre Rishikesh et Dharamsala. Parle-nous quand même d'être le fait de voyager seule en tant que femme en Inde.
Écoute, moi ça s'est incroyablement bien passé. Je suis arrivée vraiment avec une fois que tout allait aller et je faisais même pas, en fait j'avais pas vraiment conscience, je pense, des dangers. J'ai dépassé vraiment ça et je suis beaucoup tournée sur les lieux touristiques, donc j'étais toujours en sécurité, je me suis toujours sentie en sécurité partout où j'allais, le fait d'être justement dans des villes un peu occidentalisées, hein, quelque part. Et voilà, j'ai eu je raconte, hein, aussi dans le livre, mon expérience dans un train de nuit où là je suis en sleeper class. Donc faut savoir que les sleeper class, c'est des classes en fait où tu voyages avec que des hommes indiens. Et donc là ça a été une expérience horrible que je renouvrerai pas. Donc faut juste après savoir qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, effectivement, à privilégier les VIP class, parce que là t'es vraiment c'est plus cher effectivement, mais au moins t'es sûr d'être de pas te retrouver au milieu de 10 hommes sous qui te touchent les jambes dans la nuit, quoi, par exemple.
Bah, l'Inde, c'est vraiment un pays à multiples facettes. Donc, comme tu disais avant, je trouve ça assez sage et assez juste, hein, que voyager dans des endroits touristiques, hein, c'est peut-être plus facile, c'est plus sécurisant. Tu parles de Dharamsala, Rishikesh, tu parlais du Kerala, donc effectivement des endroits en Inde où on est avec plein d'autres occidentaux, où les gens savent un petit peu comment nous traiter, comment nous accueillir, comment on vit chez nous. Et c'est vrai que c'est plus facile et ça peut éviter beaucoup de problématiques. Hein, donc peut-être toi, femme, ou toi, homme, hein, qui se pose la question de partir seul en Inde, je pense que dans un premier temps, c'est peut-être effectivement bien d'aller dans des endroits où on sera quand même en sécurité, en tout cas plus sécurisé par le fait que d'autres occidentaux sont passés avant nous.
Oui, tout à fait. Et j'avais même vu croiser moi une voyageuse qui voyageait en Inde depuis des années, et elle m'avait dit donner un conseil, et elle me dit surtout ne les regarde pas dans les yeux, parce qu'en fait pour eux c'est une invitation au dialogue ou même à plus. Et moi je regarde toujours dans les yeux quelqu'un quand je lui parle. Et là c'est vrai que j'avais quand même pris en compte aussi cette donne de ne pas provoquer ce qui pourrait être pour eux provoquant, qui pour moi ne l'est pas. Donc voilà, prendre aussi ça en considération, que bah oui, c'est toute une autre culture en fait, c'est d'autres codes. Et je ne m'étais pas vraiment renseignée. Moi je suis vraiment partie comme ça, bah voilà, avec la sensation que tout allait bien se passer.
Avant de parler de ton retour, on va revenir sur ton voyage thérapeutique, hein, cette envie de guérir cette hernie, donc de guérir cette hernie discale. Hein, donc sur ces 6 mois, qu'est-ce que tu sens, un processus de transformation, et comment, par quoi ça passe, et qu'est-ce que tu transformes?
Alors ça passe par plusieurs crises déjà. Je refais une crise au bout de 2 mois. Qui me paralyse, mais pas autant que j'avais pu l'être quand je m'étais fait opérer. Et là, je me dis, ça y est, c'est revenu, en fait. Je vais devoir rentrer en France. Ça se termine, mon voyage se termine là. Et donc là, c'est un gros processus encore. Bon, là, je suis hyper bien entourée. Je suis entourée avec deux personnes que j'ai rencontrées, deux femmes qui voyagent aussi seules. On s'est regroupées dans une guest house. Et je tombe du coup sur une prof de yoga qui m'explique que non, que ma guérison, en fait, c'est normal de retrouver des crises. En fait, c'est comme ça que la guérison finale arrive. Donc les crises continuent, mais en moins violent. Et c'est comme ça que je continue à progresser, parce que voilà, enfin, c'est comme ça que moi je le vis, quoi. Peut-être cette guérison par plusieurs crises. Et donc là, je vais, grâce à cette crise, eh bien, je vais rencontrer plein de types de guérisons par le corps. Donc là, je vais aller faire du yoga Kundalini que je ne connais pas, donc je m'initie à ça. Des bains sonores, je tombe sur un couple avec qui me font des soins avec des bols. En fait, ça m'ouvre un champ de possibles de guérison que je ne connaissais pas. Donc grâce à ça, en fait, je le vois vraiment comme mon corps comme le GPS qui va me donner la direction. Donc je commence à identifier que les crises sont quand même des messages et des cadeaux. Enfin là, j'étais vraiment dans ce... avant que la crise arrive, j'étais retournée dans un process de je fais, je visite ça. J'étais vraiment dans une consommation de Rishikesh. Et là, je fais un saut dans le Gange, sur un rafting, et là, c'est là où la crise arrive. Donc ça me ramène, moi, à mon état d'être, en fait, plutôt que mon état de faire. Donc c'est ça que ça vient me dire. Donc voilà, ces guérisons, elles passent aussi par là, par le fait de retrouver des crises, de comprendre pourquoi j'ai fait la crise, et du coup de pouvoir identifier comment ne pas comment trouver la limite avant que la crise arrive aussi. Tu vas trouver comme un dosage ou des signes en fait précurseurs qui fait que ben voilà, je vais pouvoir éviter de me retrouver dans une situation de blocage. Et ça c'est beau, parce que je commence à comprendre comment mon corps fonctionne grâce à ça. Et c'est ensuite la rencontre avec mon prof de yoga qui fait que pendant un mois je vais faire 10 heures de yoga par jour. Donc là je vais vraiment m'assouplir, me rééduquer, renforcer mes muscles. Même moi en tant que kiné, je découvre qu'il y a des muscles que je ne sais pas faire contracter ou que j'ai négligé. Même ma rééducation, je l'ai négligé. Donc le yoga, je fais vraiment ce process de rééducation par le yoga. Et après, à la fin du stage de yoga, là, je découvre une posture qui vient vraiment me soulager mon dos. Donc là, vraiment, ça a été révélateur, quoi, de trouver aussi des postures clés pour moi, pour ma pathologie, quoi.
Au début de l'émission, tu nous disais que tu étais parti en Inde avec cette intention de découvrir l'Ayurveda. On en est où là dans l'Ayurveda? Parce qu'on a parlé de yoga, on a parlé de bouddhisme, mais pas encore d'Ayurveda, qui est la médecine traditionnelle indienne.
Oui, eh bien écoute, on est rendu à pratiquement au milieu de mon voyage et je n'arrive toujours pas à aller là où j'avais prévu d'y aller. Je me renseigne énormément, je prends des renseignements sur où je peux faire une cure, je rencontre un médecin ayurvédique qui me fait un diagnostic, qui me prescrit des plantes, mais je suis toujours pas dans ce process de cure. Et il s'avère que je vais pas, de tout mon voyage, de tout mon process, je suis appelée à autre chose, et donc la cure, elle est déjà... Elle passe à travers, quoi.
Quand on parle de cure, tu penses au Panchakarma ?
C'est ça, le Panchakarma. Donc, je pensais faire un Panchakarma de 21 jours. Je m'étais vraiment partie en tête avec ça. Je m'étais un peu renseignée justement sur des festivals de yoga à Paris avant de partir. Voilà, avec plein d'objectifs. Et puis, donc je lâche ça parce que je vois que ça n'arrivera pas. Et en fait, ça n'arrive pas.
Qu'est-ce qui te reste de ces 6 mois en Inde, les moments forts que tu aimerais partager avec nous ?
Et ce qui me reste, c'est cette sensation de liberté que j'ai pendant ce voyage, où vraiment de me laisser guider par toutes les rencontres, les intuitions. Enfin ouais, vraiment ça, cette notion de liberté et aussi de moi. J'ai la conscience là qui vient, c'est vraiment de prendre conscience de ma conscience, enfin c'est ça, c'est surtout ça, de repartir, enfin c'est comme si j'étais partie vide et que je repars complètement nourrie, rechargée, que voilà, je peux repartir en France quoi. Ouais.
Dans nos réseaux un peu alternatifs, ésotériques, New Age, développement personnel, il y a cette croyance que quand on saute sans filet, le filet apparaît grâce aux synchronicités. Voilà, souvent, voilà, les intentions, on pose une intention et sur notre chemin va apparaître les clés qui vont nous permettre d'arriver à notre fin. Comment tu te positionnes, toi, par rapport à cette notion de synchronicité et cette croyance qui va avec ?
Mm-hmm. Bah, moi, c'est plus par l'expérience que j'ai appris que c'était des synchronicités, parce que je ne connaissais pas ce terme de synchronicité. Et effectivement, je me dis que tout ce qui m'a amené à suivre, comme si je plantais des petits cailloux, à suivre ces petits cailloux, ça m'a amené à quelque chose que mais j'aurais jamais... je partais pas avec l'intention d'ouvrir ma conscience, par exemple. Enfin, je ne savais même pas que ça pouvait exister. Donc voilà, et là, ça a été de ne rien rechercher. Voilà, ça aussi que je voulais partager, c'est que on m'avait toujours dit n'attends rien, tout est prévu pour toi. Et ça a été, je crois, le fil rouge de mon voyage. C'est qu'en n'attendant rien, tout est arrivé en fait.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Lissaya, tu pars en Inde seule avec un billet aller simple, mais finalement tu vas rester 6 mois sur ce pays continent. Qu'est-ce qui fait que tu actes ton retour ? Comment s'est passé ? Enfin, avant de parler du retour, de savoir comment il s'est passé, j'aimerais savoir ce qui a décidé ou ce qui a défini que ça y est, c'était le moment de quitter l'Inde.
Alors déjà, la fin du visa, parce que mon visa expire au bout de 6 mois. Et financièrement, là, je commence à vivre du coup de mes ressources de côté. C'est surtout la raison financière en fait. Hein. Je rentre parce qu'il est temps d'entrer.
Mm. Et alors le retour ? Parce qu'il y a un bouquin qui est sorti suite à ce retour. Enfin, j'ai compris que tu avais 3 tomes, dont un qui est spécifique sur la réintégration après quand même une acculturation de 6 mois dans un pays très différent du nôtre.
Alors le retour, c'était pas un retour voulu, enfin quelque part, puisque je rentre quand même pour question d'argent. Et en plus, j'ai quand même rencontré quelqu'un dans le pays, donc je quitte la personne que j'aime quand même à l'époque là. C'est très violent, c'est vraiment, c'est pas du tout un retour souhaité, donc du coup j'accepte pas le retour, donc je le vis très difficilement. C'est presque pour moi plus difficile, c'est l'inconnu en fait de retourner maintenant en France, c'est comme si c'était un pays qui était devenu étranger pour moi. C'est que je m'étais tellement identifiée l'Inde comme ma patrie, que maintenant, je dis d'ailleurs dans le livre, je reviens en terre de souffrance. J'ai identifié la France comme mon pays de souffrance, donc Donc c'est dur du coup, vu que je pense que je vais souffrir, donc je souffre évidemment déjà de cette rupture amoureuse et puis aussi de ce que disent les proches de moi en fait, de me remettre tout de suite dans la vie. Ils veulent tout de suite que je reprenne un travail, qu'est-ce que tu vas faire, et ça me fait souffrir qu'on me laisse pas vivre, être en fait, tout simplement comme j'étais en Inde, j'étais en fait tout simplement, donc ça c'est difficile, ouais.
Et alors, comment est-ce que tu te réadaptes à cette terre de souffrance, comme tu la nommes ?
Bah écoute, déjà je dois reprendre le travail, hein, donc au bout d'une semaine à peine, hein, donc en plus je reprends un travail à l'hôpital. Enfin là c'est vraiment, ouais, c'est quand même assez violent, et donc je me réintègre par le travail quelque part, dans l'idée de revendre mon appartement. Donc je m'engage vraiment dans des démarches, je rentre chez moi, déjà j'évite tous mes placards, je fais du tri, je me dépossède, comme je dis, je donne, je vends plein de choses, enfin voilà, je trie, je dis non mais j'arrive chez moi, je dis c'est pas possible, j'avais tout ça. Donc voilà, donc je prends conscience aussi de tout ce que j'ai accumulé parce que j'étais pas bien, donc à l'époque j'achète pour me sentir mieux. Donc là je fais tout ce tri et je me tourne aussi vraiment vers des personnes qui me font du bien, parce que il y a une pression familiale moi sur ce que je vais devenir, l'inquiétude de mes proches, l'angoisse même, hein, de mes proches, et c'est vraiment c'est très lourd, en fait c'est très lourd. Et donc je me réfugie dans un ashram. Au bout d'un mois, je vais faire une semaine de stage dans un ashram. Et voilà. Et donc je me dis ouais, voilà, c'est ça. Il faut que je retourne vers les pratiques spirituelles, parce que du coup, j'avais vraiment développé ce qu'on appelle les sadhanas. Ce sont vraiment des pratiques quotidiennes spirituelles. Et je lâche ça au retour aussi parce que je me remets dans un travail. Et donc le fait de lâcher la pratique aussi, le mental qui revient et tout ce qui va avec, quoi. Donc voilà, j'avais vraiment senti ce besoin d'aller en retraite encore, retourner vers les pratiques. C'est là où je me sentais bien, vraiment.
Et aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je suis beaucoup plus apaisée. Je me sens vraiment sereine avec cette idée du matériel, puisque j'ai quand même racheté une maison avec mon conjoint, racheté une voiture, racheté du matériel. Enfin voilà, je suis assez à l'aise avec le fait, parce que je comprends qu'en fait, je ne dois plus le vivre comme un poids, mais comme aussi mon incarnation, que si je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour expérimenter des choses dans la matière, dans le matériel, et tout en gardant évidemment une pratique spirituelle quotidienne. C'est vraiment un équilibre, quoi.
C'est un peu ça finalement le voyage, c'est de se découvrir ou enlever toutes les couches comme un oignon pour arriver à se découvrir d'une certaine manière qu'on ne peut pas faire ici parce que le contexte culturel ne le permet pas. Mais finalement c'est pas forcément renoncer, c'est vivre une expérience, peut-être pour en tirer les leçons et, comme tu l'as fait, revenir à quelque chose que tu avais quitté.
Mmh. Oui, et ce que je m'aperçois aussi à ce retour, c'est que en fait, l'ashram où j'ai été, il était à 10 km de chez moi. Et j'aurais très bien pu vivre tout ça dans cet ashram, parce que j'aurais pris du temps aussi pour la pratique. Et donc je me dis, j'ai toujours dit ça aussi, on n'est pas obligé d'aller faire 10 000 km pour revenir à soi. Des fois, juste de se prendre du temps, de se prendre une semaine, d'aller à 100 km de chez soi, déjà de faire une pause, de quitter le quotidien. Voilà, ça peut aussi, si on a vraiment la volonté de vouloir changer quelque chose, on peut le faire. Même sans prendre un billet d'avion, hein, tout simplement.
Lissaya, merci à toi.
Merci Alex.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Vous venez d'écouter l'émission Regarde ailleurs, une émission que j'enregistre lors de mes différents déplacements en tant que photographe, reporter et voyageur. J'aime bien penser qu'une rencontre peut en inspirer beaucoup d'autres, et j'aime donner la parole à tous ceux qui ont un parcours de vie en lien avec le voyage, l'interculturalité, le mouvement ou la découverte du monde ou la découverte de soi.